amphis d'Amicus. Aujourd'hui, Maître Christian Huglot, cofondateur du cabinet Huglot-Lepage, avocat spécialiste des questions relatives au droit de l'environnement, nous présente les grands fondements du droit de l'environnement. Deuxième épisode, les grandes techniques du droit de l'environnement.
Alors, les grandes techniques du droit de l'environnement sont rassemblées dans un code. Alors, il y a une chose à dire qui est très importante. Vous avez vu, on avait parlé dans la première émission des grandes affaires de pollution internationale, de l'affaire de la Bretagne, aussi la rocade de la Baule, qui ont permis d'établir le dommage écologique et l'étude d'impact écologique. Mais tout ça, c'est bien. Mais il fallait que le législateur intervienne pour figer le droit. La jurisprudence, c'est bien, mais il faut figer le droit. Il faut que le droit soit institutionnalisé et rangé de façon claire. Et ça, ça s'est fait en 30 ans. C'est tout à fait extraordinaire. Le droit de l'environnement a évolué aussi vite, par exemple, que le droit du travail en quelques années à partir des années 1890. C'est arrivé à un code du travail très rapidement. On a mis 30 ans, à peine 30 ans pour le faire. Si vous ouvrez le code, vous avez la patience de le faire. C'est un ouvrage qui est, je l'ai commenté d'ailleurs dans différentes éditions, c'est un ouvrage qui regroupe 800 à 900 articles législatifs. Et vous l'ouvrez, vous allez tout de suite comprendre comment est bâti le droit de l'environnement. Il y a une introduction qui est relative à, comment dirais-je, aux institutions, les grands principes, les associations, les dispositions financières, puisqu'il y a des taxes en matière d'environnement. Mais vous ouvrez, vous regardez, il y a 5 livres. Et sur les 5 livres, il y en a 1, 2 et 3, le 2e, 3e et 4e, qui sont consacrés à la protection de la nature. Qu'est-ce que fait le Code de l'environnement? Il prend des choses très réalistes, l'air, l'eau, le sol, les paysages, les espaces naturels et l'utilisation de la faune et de la flore, hein, notamment par la chasse et la pêche aussi, qui est une façon d'entretenir l'environnement d'ailleurs, il faut le dire tel que c'est. Puis la dernière partie qui est assez riche et importante, c'est toutes les luttes contre la dégradation du droit de l'environnement. Le droit des installations classées, le droit des produits chimiques, les organismes génétiquement modifiés, les déchets, même... chose assez intéressante aussi, la prévention des risques naturels. Et donc, vous avez une vision complète. Tout est couvert. Bien. Maintenant, il faut savoir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne par de grandes techniques. Tout à l'heure, dans un instant, on ira plus dans le détail. Mais par de grandes techniques qui sont très simples. Cela fait appel au droit public, c'est-à-dire ce qu'on appelle les plans et les schémas. Il y a des plans et des schémas pour chaque activité, pour l'eau. Ça s'appelle les SDAG, les schémas directeurs d'aménagement de gestion des eaux. Et vous avez en urbanisme, vous avez aussi des planifications. Vous avez en matière de déchets des planifications en matière de carrière. Et tous ces plans-là doivent un peu s'emboîter les uns dans les autres, ce qui n'est pas toujours facile. Et à partir de ces plans, vous avez la possibilité de développer des activités parce que l'on appelle par des demandes d'autorisation administrative. L'environnement est mis sous surveillance de la puissance publique. Et donc, par conséquent, vous ne pouvez pas toucher à l'environnement, soit exploiter une forêt, soit exploiter un marais salant, etc., tout ce que vous voulez, ou des ressources de la pêche, sans que la puissance publique ait regardé votre cahier des charges. C'est-à-dire, quelles sont les techniques que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez détruire? Est-ce qu'on va, on verra plus dans le détail tout à l'heure. Si vous risquez de détruire, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a un contrôle effectif grâce quand même à l'administration, qui n'est pas assez nombreuse. D'ailleurs, malheureusement, les effectifs du ministère de l'Environnement sont insuffisants pour surveiller. Et donc, toutes ces techniques-là, si vous voulez, doivent être observées. C'est les autorisations administratives. Si vous travaillez sans autorisation administrative, vous avez des sanctions pénales. Et vous engagez votre responsabilité dans tous les cas de figure. Parce que même si la puissance publique vous donne l'autorisation de faire quelque chose, et que vous, en tant qu'usager ou voisin, vous êtes
extrait du récit
victime,
sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, édition Gallimard, 2016. Il y avait aussi des lézards serpentant par poignées. Ils fuyaient entre les pierres à la moindre alerte. Leurs aïeux avaient été les seigneurs de la terre. La race des sauriens avait dominé la vie avant de disparaître à la fin du Crétacé, subitement. Ces petits gardiens de l'ombre étaient les héritiers des lointains maîtres du monde. Avec leur air inquiet, Leurs yeux sévères, leur port altier, leur crête dragonne, ils semblaient s'en souvenir. Ils devaient se dire, tapis dans leur recoin, « Ah, quand nous gouvernions la Terre il y a 65 millions d'années !» Allions-nous subir le même sort, nous autres ? Nous menions la danse en ce moment, nous régentions la chaîne du vivant. Nous trafiquions l'atome, nous modifions le gène, nous augmentions la réalité avec des puces de silicium, nous recomposions le poème initial. Mais l'avenir, il ne suffit pas d'être puissant pour durer, les lézards nous le rappelaient. Peut-être allions-nous quitter le devant de la scène ? Alors quelques-uns d'entre nous, diminués physiquement, survivraient dans l'ombre comme ces fils des dieux à écailles pour se souvenir des heures glorieuses.
Oui, quand on entend ce texte, on a envie de réagir fortement parce que, comment dirais-je, on voit très bien quelle est la responsabilité de l'homme dans la dégradation de l'environnement. Ce dont nous parlons actuellement, ce sont des techniques d'utilisation dans ce que j'appellerais des conditions de température et de pression assez logiques, c'est-à-dire la vie quotidienne. Mais le sujet qui est soulevé ici, c'est tout à fait l'avenir de l'homme. Et ça, on va en parler pour la justice climatique et sur l'atteinte à la biodiversité révélée récemment par WWF. On a perdu 40 à 60%. Alors pour l'instant, on essaye de gérer le quotidien avec ce qu'on a. Ça n'empêche pas que le droit de l'environnement, on va voir, doit se transformer complètement et être le droit de la défense du territoire et le droit de l'avenir. Nous allons voir ça. Pour l'instant, qu'est-ce qu'a fait le Code de l'environnement ? Le Code de l'environnement, comme je l'expliquais il y a un instant, gouverne toutes les activités. Vous ne pouvez pas fonctionner et toucher à l'environnement, en principe, de façon substantielle, si vous ne prévenez pas les dommages. Et alors, il y a deux techniques qui sont utilisées. Dans tous les grands dossiers d'environnement, il doit y avoir ce qu'on appelle l'étude d'impact écologique. Qu'est-ce que c'est que l'étude d'impact écologique ? Pour la définir de façon assez simple, c'est un document technique sur l'écologie qui doit concerner plusieurs points, ce qu'on appelle l'état zéro, les risques engendrés par l'activité, décrire de façon complète, ensuite mesures de compensation et les raisons du choix. C'est un document technique, par exemple sur les lignes TGV ou des choses comme ça, c'est plusieurs dossiers. Sur les centrales nucléaires, c'est plusieurs dossiers. Sur des porcheries, c'est un peu moins important. Mais cette étude d'impact écologique était faite au départ pour donner un cadre à l'autorisation administrative et la conditionner en fonction de... En fait, le gouvernement n'a pas toujours joué le jeu. Il a été condamné après ça par l'Europe parce qu'il a... D'un côté, il voyait l'étude d'impact écologique, il trouvait c'est formidable, puis de l'autre côté, il donnait l'autorisation sans toujours en tenir compte. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que pratiquement, normalement, les dommages écologiques sont prévisibles. Et donc, par conséquent... Et ce qui est important, c'est que le document est soumis au public. Et le public a son mot à dire. Et le public, s'il estime que les protections sont insuffisantes, peut aller voir le juge administratif et faire annuler l'autorisation. Il y a eu énormément d'annulations sur les études d'impact, etc., parce que le projet était mal protégé. Et donc, il y a deux choses qui marchent ensemble. Le document technique et la consultation du public. L'enquête publique, l'information, la participation du public est la deuxième clé essentielle du sujet. Et puis, dernière technique que l'on a inventée, qui est tout récent, qui se trouve dans la loi de Mme Ségolène Royal du 8 août 2016, qui est la loi avec ce titre épatant qui s'appelle, Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. On dit reconquête, ça veut dire qu'on a perdu des choses, n'est-ce pas ? Bon, et c'est l'invention de la compensation. Vous ne pouvez plus faire des activités actuellement si vous n'avez pas trouvé à côté l'équivalent écologique et de biodiversité de ce que vous détruisez. Alors, il y a des techniques qui permettent d'acheter des terrains, de louer des terrains à cette fin, mais il y a aussi ce qu'on appelle les unités de biodiversité. C'est un terme assez barbare qui ressemble à des actions, si vous voulez, que vous achetez à la Caisse des dépôts et consignations, qui, elle, grâce à cet argent, va reconquérir des territoires pollués ou des territoires de banlieue pour, ou ailleurs des entours de villes pour, effectivement, avoir un capital environnemental. Il faut quand même savoir quelque chose. Et là, on a un problème énorme, et je vais m'arrêter là. C'est que nous avons perdu en artificialisation des sols depuis une dizaine d'années, l'équivalent du département du Gard. C'est quelque chose de dramatique. Et l'environnement, ce n'est pas les petits oiseaux, ce n'est pas la qualité de la vie, c'est la défense du patrimoine. Merci de votre attention et la suite des aventures dans quelques temps. J'espère que vous arriverez à patienter.
Ce deuxième épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blumberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Alban Lejeune. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.